Chapitre 20. Soit que Belloc ne se pressât point de chercher une servante, soit que celles qui auraient pu avoir l'idée de se présenter chez lui en fussent empêchées par le nouvel exemple dont tout le monde parlait dans la contrée, Divine n'avait point été remplacée et Marichette continuait de faire la cuisine, aidée par Benjamin. C'était avec bonne humeur et même avec complaisance que Benjamin s'était mis à sa disposition et toujours elle le trouvait prêt lorsqu'elle avait besoin de lui. Comme tous ceux qui boivent beaucoup et à chaque instant de la journée, il était petit mangeur. Un morceau de pain le matin, une assiette de soupe le soir lui suffisait. Ce morceau de pain, cette assiette de soupe, Marichette les lui donnait, de sorte qu'il pouvait employer en eau-de-vie ce qu'il dépensait naguère en nourriture. Et pour sa soif de plus en plus exigeante, il y avait là de quoi le mettre en belle humeur. Quand il lavait la vaisselle, il savait qu'aussitôt qu'il aurait fini, il pourrait rejoindre son ami Liché au joyeux matelot et se payer de larges lichettes jusqu'à 11 heures ou minuit. Cela méritait qu'on se donnât un peu de peine, sans doute. Son cousin, ne parlant pas de servante nouvelle, Marichette n'en avait pas parlé non plus, et jamais elle n'avait laissé paraître que cette besogne de la cuisine pouvait lui déplaire, bien qu'il lui fût dur de quitter le bureau, justement au moment où Paulin, presque toujours, rentrait de ses courses. Mais ce qu'elle n'avait pas dit, d'autres le disaient pour elle, et dans Saint-Maclou, ce n'était qu'une clameur. « Vous savez que Belloc a fait de sa cousine sa servante ?»« Quelle avarice ! N'est-ce que de l'avarice ? Que voulez-vous que ce soit ?» Quand c'était entre hommes que ces propos s'échangeaient, on en restait là. Avec un personnage comme Simon Belloc, il était bon de ne pas aller trop loin. Son service d'espionnage était si bien organisé que jamais on ne pouvait être sûr que ce qui se disait entre amis ne lui serait pas rapporté. Et comme tout le monde savait de quelle façon il se vengeait, on se tenait sur ses gardes. L'accuser d'avarice, ce n'était pas grave, et d'ailleurs il ne s'en fâcherait pas, au contraire. Mais formuler nettement d'autres accusations, on ne l'osait, s'en tenant prudemment à des insinuations vagues, à des clignements d'œil qui avaient ce double avantage d'être suffisamment précis entre initiés et de pouvoir être niés au besoin. Mais, entre femmes, au moins entre certaines femmes qui croyaient avoir gagné le droit de parler librement de Belloc, il en était autrement, et Madame de la Broquerie ne se gênait nullement pour dire que c'était là un scandale abominable. « La petite a remplacé Divine, en tout et pour tout, c'est bien simple. Ne me dites pas que si cela était, il aurait pris une servante pour que la jeune fille ne se fatigue pas aux soins du ménage. » Ce qu'elle fait de ménage ne la fatigue pas beaucoup, puisqu'elle a Benjamin pour l'aider. Et à n'avoir pas de servante, il trouve l'avantage d'être seul dans la maison toute la nuit. C'était la jalousie et l'exaspération d'une femme délaissée qui inspirait les actions de Madame de la Broquerie. C'était le soupçon d'une femme inquiète qui dictait les interrogations que Madame Voisard adressait à tout propos à Marichette. « Pourquoi donc votre cousin ne prend-il pas une servante ?»« Sans doute, il ne trouve pas celle qu'il voudrait. »« Il ne doit pas se montrer trop difficile, et il le serait moins assurément s'il ne vous avait pas. »« Je ne me permets pas de me mêler de ce choix. »« Je veux dire que si vous mettiez moins de complaisance à lui préparer ses repas, Divine serait remplacée depuis longtemps. » Mais c'est un devoir pour moi de tâcher de faire ce qui m'est possible pour qu'il ne s'aperçoive pas que Divine lui manque. Encore y a-t-il certaines choses qu'une jeune fille comme vous ne peut pas faire par complaisance. Cela dit, en l'enveloppant d'un regard qui la déshabillait. Lesquelles donc, madame ? Demanda Marichette avec une sérénité parfaite, sans rien comprendre à ce regard et encore moins à ses paroles. « Mais la cuisine, croyez-vous que ce soit un attrait pour une jeune fille à marier, qu'on dise d'elle qu'elle fait la cuisine ?»« Justement, je ne suis pas une fille à marier. D'ailleurs, si je me marie jamais, mon mari ne pourra pas être fâché que je sache faire un peu de cuisine, car ce ne serait pas avec la dot que je lui apporterai que nous pourrions nous offrir une cuisinière. »« Vous perdrez la blancheur et la douceur de vos mains. » Elles auront le temps de blanchir et de s'adoucir à nouveau avant mon mariage. » Évidemment, cette petite intrigante ne voulait pas de servante et son jeu n'était que trop facile à deviner. Elle manœuvrait pour se rendre indispensable. Quand elle aurait réussi cette première partie de son plan, elle manœuvrerait pour se faire épouser. C'était bien de la rouerie à son âge, mais c'était encore plus d'audace imprudente, car avant d'arriver à son but, elle rencontrerait des résistances qu'elle n'avait pas prévues à coup sûr. « Si vous voulez, mon enfant, j'avertirai votre cousin qu'il ne doit pas vous abaisser à ce rôle de servante. » »« Mais je ne me trouve pas abaissée de faire ce qui m'est possible pour lui être agréable. Aussi, je vous prie de ne pas l'avertir, il pourrait croire que je me plains et rien ne serait moins vrai. » Ordinairement, Marichette n'intervenait jamais dans la marche des choses, de même qu'elle ne prenait les devants à propos de rien. Mais dans cette circonstance, elle manqua cette règle. Le lendemain du jour où elle avait eu cet entretien avec Madame Voisard, elle le raconta à son cousin. « T'es-tu plainte à quelqu'un ?» demanda Belloc durement. « Non, à personne. Et même, je n'ai jamais eu la pensée de me plaindre, car jamais je n'ai trouvé ce que je fais désagréable ou pénible. C'est sincèrement que je vous ai dit que vous pouviez prendre tout le temps nécessaire pour remplacer Divine. Je tiens à vous le redire. » Marichette croyait que désormais, personne n'aurait plus l'idée de venir à son secours. Mais elle avait compté sans Sélanie. Pour avoir quitté Saint-Maclou, Madame Belloc n'avait pas rompu toute relation avec son pays natal, où elle avait encore des parents du côté maternel et des camarades de jeunesse. Aussi, deux ou trois fois par an, à de certaines fêtes, revenait-elle voir ses amis et surtout se montrer dans la gloire d'une toilette neuve qu'elle croyait propre à produire de l'effet. Ce fut ainsi qu'un jour de fête patronale, où tout Saint-Maclou était à l'église, Marichette la vit arriver à la messe dans une toilette retour au pays natal, la tête emplumée, le cou et les poignets cerclés de bijoux clinquants. Au bruissement de sa jupe de soie et de son jupon, raide et sonore comme une feuille de métal, tout le monde tourna la tête lorsqu'elle traversa l'église pour aller prendre sa place tout près du chœur. En passant à côté de Marichette, elle s'arrêta un court instant et, se penchant vers elle, elle lui dit « Je vous verrai après la messe ». Il fallut donc, après la messe, au lieu de rentrer en compagnie de Madame Moreau, Marichette attendit sous le porche. « C'est pour vous que je suis venue aujourd'hui à Saint-Maclou, » dit Sélanie en emmenant Marichette dans la partie du cimetière où personne ne passait. « Pour moi ? Et comme je ne peux pas entrer dans la maison de M. Belloc aîné, je suis obligée de vous entretenir ici, les pieds dans l'herbe, au milieu de ces tombes. Si ce n'est pas une honte ! Mais laissons cela, il s'agit malheureusement de choses plus graves. » Elle regarda autour d'elle. On ne pouvait pas les entendre. Ceux qui sortaient encore de l'église passaient en se hâtant, le livre de messe sous le bras. Cependant, elle baissa la voix. « Nous avons appris que M. Belloc aîné vous imposait le métier d'une servante et c'est pour nous un si grand chagrin que nous avons décidé d'intervenir afin d'empêcher cette honte. Que voulez-vous que nous fassions pour vous ?»« Rien, je vous remercie. Je ne demande rien. » « Vous ne demandez rien parce que vous êtes fière, mais nous qui sommes fiers aussi, nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps que notre parente soit une servante. Je vous ai demandé tout à l'heure ce que vous vouliez que nous fassions pour vous, mais mon mari et moi nous avions prévu votre réponse et nous avions décidé de ne pas en tenir compte. Nous devons vous arracher à ce misérable, nous accomplirons notre devoir. » « Je vais aller avec vous chez M. Belloc, ou sans vous, si vous n'osez pas affronter sa colère, et je lui dirai que je vous emmène à Criquefleur. Mais je ne me plains pas de travailler, j'en suis même heureuse, puisque je m'acquitte ainsi de ce qu'on fait pour moi, et je ne peux pas accepter ce que vous me proposez. Vous n'avez donc pas de cœur, malheureux enfant ? Ce serait en quittant M. Belloc, parce qu'il me fait travailler, que je n'aurais pas de cœur. « Vous, une fille comme vous, vous seriez servante. Pensez donc qu'après vous avoir prise pour remplacer sa servante à la cuisine, il vous prendra pour la remplacer dans son lit. Oh, madame ! Il faut dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles seront demain peut-être. Que faut-il pour cela ? Tout simplement qu'il vous trouve sous sa main un soir en rentrant. » Si Marichette avait entendu ces paroles le matin du départ de Divine, elle aurait aussitôt quitté Saint-Maclou pour Criquefleur et se fût jetée dans les bras qu'on lui ouvrait. Mais les craintes qu'il avait alors bouleversées s'étaient changées en remords et ce n'était pas maintenant qu'elle pouvait avoir la pensée de s'enfuir. Elle les avait déjà entendues lors de sa visite à Criquefleur. Si elle ne l'avait pas alors décidé, il n'y avait pas de raison pour qu'elles eussent plus d'influence maintenant. Au contraire, il s'en était petit à petit établi une pour qu'elles en eussent moins, l'expérience de chaque jour. Quand on lui avait dit « voilà ce qu'il sera », elle n'avait pu répondre. Mais quand aujourd'hui on lui répétait encore « voilà ce qu'il sera demain », c'était son devoir de répondre « voilà ce qu'il a été depuis que je demeure chez lui ». Ce fut en effet ce qu'elle dit. Mais cette réponse exaspéra Madame Belloquet, qui, perdant toute prudence, s'écria à pleine voix « Êtes-vous folle ?» À ce moment, passait près d'elle une vieille femme, enveloppée dans sa cape, voûtée, marchant lentement, que ce cri surprit au point qu'elle en laissa tomber à terre le petit morceau de pain béni qu'elle portait dans le creux de sa main. La mine effarée avec laquelle elle les regarda, allant de l'une à l'autre, rappela Sélanie à la raison. Ce ne serait pas par l'emportement qu'elle agirait sur cette sotte. Mais la douceur et l'adresse ne produisirent pas plus d'effet. À tous les arguments, Marichette opposait la même réponse « Je ne me plains pas de travailler. » Ou bien « Je ne peux voir dans mon cousin que ce qu'il a été depuis que je demeure chez lui. » Que faire contre cette placidité obstinée ? Sélanie était déroutée. Elle avait compté sur l'exaspération d'une fille humiliée et c'était de la résignation qu'elle trouvait, plus que de la résignation même, une sorte de satisfaction. Cela était tellement extraordinaire pour elle que ses soupçons lui revinrent, plus pressants qu'ils ne l'avaient jamais été. N'était-ce pas l'intérêt et le calcul qui inspiraient cette résignation ? N'était-ce pas pour s'emparer petit à petit du corsaire, l'enjôler avec ses grands yeux noirs, le dominer et se faire faire un testament ou se faire épouser ? Que Marichette acceptait cette domesticité, servante aujourd'hui pour être maîtresse demain. Il fallut cependant qu'elle renonçât à l'exécution du plan qu'elle avait combiné et imposé à son mari. Comment entrer chez le corsaire et lui enlever Marichette à la force du poignet, si celle-ci ne se prêtait pas à cet enlèvement ? Mais ce n'était pas son habitude de pousser les choses à l'extrême, et lorsqu'elle en était réduite à une rupture, elle s'arrangeait toujours en partant pour se garder une porte ouverte. Sait-on jamais ce qui peut arriver ? Vous n'oublierez pas, mon enfant, dit-elle au moment de la séparation, que j'ai tout fait pour vous sauver. Si, par malheur, ce que mon mari et moi nous avons prévu, nous qui savons quel homme est ce monsieur Belloc est né et qui avons l'expérience de la vie, si par malheur cela se réalise, ou si simplement, comme je veux encore l'espérer, vous vous voyez en danger, souvenez-vous que notre maison vous est ouverte, accourez auprès de nous. Nous vous défendrons ou nous vous consolerons. Nous sommes vos amis, vos seuls, vos vrais amis. » Et ce fut avec les démonstrations de l'amitié la plus sincère qu'elle serra les mains de Marichette. « Souvenez-vous de mes paroles, le cœur de mon mari, le mien, sont tout à vous. Un jour viendra où vous serez heureuse de vous le dire, et ce jour-là, ce ne seront point les reproches que vous trouverez près de nous, ce sera un soutien. Dans une famille, il n'y a pas que des coquins, Dieu merci. » Quand Marichette rentra en se hâtant, elle trouva son cousin qui se promenait devant le bureau des voitures, les mains dans les poches de sa blouse, le chapeau en arrière, les sourcils froncés et les lèvres serrées, de cet air fâché que les employés appelaient le coup de vent. Sans parler, il fit un signe à Marichette pour qu'elle le suivît. « D'où viens-tu » demanda-t-il lorsqu'ils furent seuls. « De l'église. Tu es bien en retard. Tout le monde est passé depuis longtemps déjà. » Marichette ne savait pas mentir. Elle n'aurait rien dit à son cousin s'il ne l'avait pas interrogé. Il la questionnait, elle devait répondre. N'avait-il pas déjà appris, d'ailleurs, la présence de Sélanie à Saint-Maclou ? Et même, n'avait-il pas appris aussi leur entretien ? Tout le monde les avait vus, causant sous les pommiers du cimetière. « J'ai été retenue par ma cousine Sélanie, » dit-elle. Belloc eut un geste de colère, un de ces gestes à poing crispé que Marichette connaissait bien et qui, quoique contenu, faisait trembler les gens avec qui il avait une discussion. Mais, si violent que fût son premier mouvement, il savait toujours l'arrêter à temps lorsqu'il avait intérêt à ne pas se laisser emporter, et ce n'était que lorsqu'elle ne devait pas être dangereuse pour lui qu'il se livrait à toutes les fureurs de ses colères. Évidemment, s'il effrayait Marichette, il n'apprendrait rien de ce qu'il voulait savoir. Avec elle, ce n'était pas par l'intimidation qu'il fallait procéder. « Célani, dit-il presque doucement, et que te voulait-elle ? » « Elle est venue à la messe, et après la messe, nous avons parlé. »« Et qu'avez-vous dit ?» Cette fois encore, elle devait répondre, puisqu'une question précise lui était posée. Il n'y avait pas à craindre qu'une parole imprudente fâchât son oncle et sa tante, plus qu'il n'était déjà fâché. « Les propos dont je vous ai déjà entretenu, dit-elle, ont couru jusqu'à Criquefleur, et ma tante voulait faire une démarche auprès de vous pour vous demander de ne pas m'employer aux travaux de la cuisine. » Elle aurait été bien reçue. Je l'ai priée de renoncer à cette démarche. Tu as eu tort. J'aurais eu un moment de bon sang. Je ne voulais pas que vous puissiez croire que c'était sur ma demande qu'elle intervenait. Elle n'a pas besoin d'être poussée à se mêler de ce qui ne la regarde pas. Enfin, dans cette circonstance, elle a agi spontanément. Tu crois peut-être que c'est dans ton intérêt et par amitié pour toi ? Je ne crois rien. Tu as tort. Il faut croire que Célani n'a jamais eu que son propre intérêt en vue, comme elle n'a jamais eu d'amitié que pour elle-même. Elle a voulu t'exciter contre moi, voilà tout. Je vous assure que si telle était son intention, elle n'a pas réussi. C'est en toute sincérité que je vous ai dit que vous pouviez ne pas vous presser pour remplacer Divine, et je suis fâchée que ma cousine, comme Madame Boisard, veuille me protéger quand je ne demande pas leur protection. C'est vrai ? Très vrai. Je vous assure que cela me blesse qu'on me plaigne quand moi je ne me plains pas. Je serais malheureuse, et même, je l'avoue, je serais humiliée d'en être réduite par la misère à me faire servante. Mais je ne me sens pas du tout malheureuse de préparer vos repas, et il ne m'était pas venu à l'esprit qu'il pouvait y avoir à cela quelque chose d'humiliant. Vous avez bien voulu m'accueillir quand j'étais abandonnée, vous m'avez admise auprès de vous, vous m'avez traitée en membre de votre famille, j'ai pour vous les soins que j'aurai pour mon père. » Jamais Marichette n'avait adressé un pareil discours à son cousin, se bornant ordinairement à quelques mots brefs et indispensables, polis et respectueux, rien de plus. Mais puisque l'occasion s'en présentait, elle voulait la mettre à profit, malgré l'émotion qui lui serrait la gorge. On lui avait tant rabattu les oreilles qu'il ne voyait pas en elle une parente, qu'elle tenait à dire hautement qu'elle voyait en lui le chef de la famille, un père. C'était sa réponse aux insinuations de Madame Boisard, en même temps qu'aux accusations de Célani et aux sinistres prédictions de Divine. Il fallait qu'il sût ce qu'il était pour elle, et s'il ne le savait point encore, il fallait qu'elle le lui dît, si difficile, si délicat que cela fût pour une timide. Tant bien que mal, elle était arrivée au bout de son long discours, et si elle ne s'applaudissait point d'avoir si bien parlé, au moins s'étonnait-elle d'avoir pu en dire si long. Quel effet avait-elle produit ? Elle eut le courage de lever les yeux sur lui et de le regarder. Elle vit qu'il souriait vaguement en l'examinant, et cela la troubla si complètement qu'elle ne trouva pas un mot à ajouter. Elle aurait voulu qu'il ne sourit point, mais au contraire, qu'il l'écoutât sérieusement comme elle avait parlé. Cependant, elle continuait à sentir courir sur elle ses yeux noirs qu'elle avait osé affronter quelques secondes auparavant, mais qui maintenant l'anéantissait. « Alors, tu ne te trouves pas mal ici » demanda-t-il. « Assurément non. Je ne te fais pas peur. » À cette question, elle répondit moins vite et d'un ton moins ferme. Cependant, elle répondit « Non. Tu n'as pas envie de t'en aller ?»« J'ai envie de rester près de vous tant que vous voudrez bien me garder. »« Eh bien, je te garderai, sois tranquille. » Et si tu sais être fine, tu n'auras pas à t'en repentir plus tard.